Elle s'allonge sur le lit. Elle n'avait pas de culotte pour aller plus vite.
Elle voit qu'il ne s'est pas déshabillé. Alors qu'est-ce que tu fais, mon vieux? Viens, tu vas pas me dire que t'es puceau à ton âge. Viens, allez, viens. L'homme s'approche d'elle, tout doucement. La femme tend les bras pour l'attirer à lui. Il se laisse prendre. Pendant qu'il est contre elle, il la couvre et sort son couteau et lui donne un coup dans la poitrine. Elle n'a pas pu réagir. Ça a été trop rapide. L'homme se retire. Le pull blanc de la fille est rouge de sang. Il remet le couteau dans sa poche. Et sort de la pièce. Il sort de l'allée. Et s'enfonce dans la nuit. Il souffle. Il a froid. Il a soif de sang. Il faut qu'il en trouve. Quelque chose lui dit que, malgré lui, qu'il lui faut du sang. C'est comme le désir de dormir, de manger. Il n'y a qu'un seul but, donner des coups de couteau, de boucher, pour faire jaillir le sang, ce sang si rouge. Son désir est tellement grand qu'il ne sait plus d'où il vient. Il n'a plus de passé ou un grand trou noir. Un trou noir qui vient peut-être du fond d'une tombe. Il ne sait pas. Il doit marcher, c'est tout. Et trouver la chair, le sang. Toutes les nuits, c'est la même chose. La journée, il ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il dort dans un coin. Il n'est pas le seul à se poser ce genre de questions. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce dû aux produits chimiques que l'on déverse dans la terre et qui polluent l'eau, les aliments? Que font ces produits dans le cerveau? Sur le cerveau? Est-ce celui qui le saura nous le dira? À moins que tout ceci n'ait rien à voir avec ce qui est et que c'est dû à une folie personnelle, mais comment le savoir? Et si on le sait, peut-être est-ce déjà trop tard, la terre est définitivement polluée, et le crime risque d'être général. Mais peut-on appeler cela crime si c'est produit parce que l'on mange, boit? Est-ce un crime que de tuer par besoin vital? Alors manger, boire, dormir serait-ce aussi un crime? Et si le crime est le désir général de tous, si ce n'est plus un crime, cela fait partie de notre espèce. Les lions, les tigres qui tuent par instinct, on ne les traite pas de criminels, parce que c'est toute l'espèce qui se comporte. Et si l'espèce humaine prend ce comportement, on ne pourra plus l'appeler crime, mais deviendra un comportement naturel. Tout comme ça fait partie de notre espèce de vivre ou pleurer. Donc, puisque l'ADN transforme les instincts et les comportements des espèces naturelles, animales et végétales, pourquoi ne le ferait-elle pas chez l'homme? Et ces nouveaux produits, espèces, qui sont laissés dans notre atmosphère, peuvent réagir chez nous et changer, transformer nos besoins, et que ces changements peuvent être définitifs, donc quels que soient ces comportements, on est obligé de les trouver naturels à notre espèce. Autrement, l'espèce humaine serait obligée de se renier. Donc chaque fois que les instincts besoins d'une espèce se transforment, deviennent autres, on est obligé de les prendre pour normales et spécifiques à l'espèce. Ce qui fait que si l'homme devient vampire, son côté vampire ne sera plus un crime, mais une normalité, une spécificité à l'espèce humaine. Même si cette spécificité vient d'une erreur humaine et définitive. Voilà à quoi il faut penser. De toute façon, chaque espèce vivante se transforme, mais elle le fait à des milliers d'années. Il lui faut des milliers d'années pour le faire. Tandis que maintenant, elle peut le faire grâce à la biotech, à l'ADN de suite, sans que l'on y soit préparé, la Terre non plus, ni son environnement. Les laboratoires Jeune Tout ont préparé des médicaments spéciaux, plants et lèvres propres. Des comprimés, piqûres qui calment les élèves et d'autres qui changent de comportement, et une piqûre dans les testicules qui rend stérile les jeunes, car on s'est aperçu que lorsqu'une personne était violente, elle avait des enfants violents. Des criminels étaient issus de familles violentes. On a trouvé dans l'ADN des choses qui rendaient héréditaire la délinquance, donc on doit la stopper en brisant le chaînon, c'est-à-dire en rendant stériles certaines personnes. Bien sûr, cette découverte a été faite par les laboratoires Jeune Tout. Mais est-ce scientifiquement vrai, ça? De toute façon, vrai ou faux, comme dit le ministre de l'Intérieur et celui de l'Enseignement, il vaut mieux prévenir qu'essayer de guérir. Surtout que l'on a ce qu'il faut pour la prévoyance, tandis que pour la guérison, on n'a rien. Donc, chaque établissement scolaire reçoit toute une panoplie pour les élèves, pour qu'ils se tiennent tranquilles. En Amérique, cela se fait déjà. Les infirmières sont formées pour cette affaire. Chaque enfant est présenté à la visite médicale. On regarde l'histoire de sa famille, et si un enfant est considéré comme violent ou futur violent à cause des antécédents familiaux ou des siens, il est suivi médicalement à l'intérieur même de l'établissement scolaire. Tous les jours, une infirmière est là pour donner les soins. À l'école, c'est sûr que le médicament soit bien pris et que l'enfant sera suivi. Tandis que dans la famille, ce n'est pas sûr. Suivant l'état de l'enfant, on lui donne des aliments et des traitements qui lui adoucissent son comportement. Et les enfants violents sont stérilisés au début de la puberté, filles ou garçons, sans qu'on en demande l'autorisation aux parents. Cette politique de traiter la violence scolaire par les soins et non pas par la morale, parce que la morale, personne ne croit à cette vieille chose, va permettre de supprimer la violence dans les établissements scolaires, rendre les enfants sages comme des images, les calmer, les ramollir. Le changement de comportement par traitement les rend bons. La stérilisation supprime la violence pour l'avenir. Voilà que nous avons une famille, une jeunesse sage et studieuse, la meilleure du monde. Les parents ne disent rien, ils sont heureux que leurs enfants soient devenus sages comme des images. Quant à la stérilité, on leur dit qu'ils avaient une maladie spermicide. Ils sont tristes pour leurs fils, mais pas pour leurs filles. Cela leur donnera un souci en moins. Quant aux jeunes, ils sont tellement ramollis qu'ils ne peuvent vraiment y penser. Et ils ne se rendent compte de rien. Ils vivent comme dans un nuage. Galien est dans son bureau. Il pense aux jours anciens où il était avec Philippe. Philippe lui manque, c'était le bon temps. Maintenant il est seul, adieu la joie en fin de journée. Avant, lui et Philippe allaient après les cours dans un café et parlaient tout en buvant un jus de tomate. Adieu le temps où on se roulait dans le lit en cachette des parents. L'odeur de Philippe, la douceur de sa peau, ses baisers brûlants et mouillés. Son corps contre le sien. Ce doux visage, ses cheveux, il aimerait tant l'avoir près de lui. Pourquoi a-t-il accepté d'être l'héritier de cette chose, de cette pieuvre? Pourquoi doit-il vivre à Paris, loin de Lyon et de son bien-aimé? À quoi cela lui sert-il d'être riche s'il n'a rien à faire de cette richesse? Il vit comme s'il n'avait presque rien. Sa fortune ne lui sert que pour l'apparat, le protocole de la société. Pour prouver à ses concurrents et aux futurs acheteurs de produits que l'on est le plus fort, le plus riche. Mais c'est tout. Il ne dépense presque rien pour lui, à part les déplacements. Ses sorties se comptent sur la main. Alors pourquoi ne pas tout lâcher et retourner à Lyon, reprendre son ancienne vie? Mais est-ce possible de revivre comme on a vécu? Les gens que l'on retrouve ont vécu de leur côté aussi, et on ne les retrouve pas vraiment les mêmes. Et les autres, vous retrouvent-ils pareil? Est-ce que vous allez retrouver ce que vous allez retrouver ne va pas vous paraître étriqué avec tout ce que vous avez appris? Êtes-vous capable de vivre une vie entourée et plus insouciante alors que vous avez inscrit dans votre cerveau des questions sur des problèmes compliqués et capitales? Après cela, êtes-vous capable d'aspirer, d'apprécier des joies juveniles? Voilà qu'on pense Galien. Il se dit que le temps ne peut s'arrêter ou revenir en arrière. C'est toujours une marche en avant, que vieillir, c'est perdre chaque jour sa pureté. Mais Philippe, il ne veut pas le perdre. Ils ne feront peut-être plus ce qu'ils faisaient, mais continueront à être
côte à côte.
Puis Gaïen se dit qu'il n'est pas si vieux pour regretter le passé, qu'il a qu'un tout petit passé, et qu'à son âge, l'avenir est plus important que le passé. Un peu de tristesse, ça passera. Il décide, c'est d'écrire une lettre à Philippe pour lui dire son amitié. Le temps passe, passe. Un soir, Gaïen, pour se changer les idées, sort et longe les quais de la Seine. Arrivé vers Notre-Dame, il voit accoudée au rebord du quai une femme grande, mince, blonde, habillée d'une robe de soirée en soie beige clair. Elle a un châle de même tissu sur ses épaules. À la main, une pochette en lamé doré. Se dit qu'elle doit avoir dans les 30 ans. Elle est belle, mais d'une beauté que l'on respecte. Éblouie par cette femme seule, au milieu de la nuit, dans un décor de cartes postales, il s'approche d'elle, se met près d'elle. Elle ne réagit pas, il lui dit, « Belle nuit, n'est-ce pas ?» Sans le regarder, elle lui dit, « Oui, bonne nuit. » Puis baisse la tête et la tourne vers lui. Gaïen lui dit, j'avais besoin de me détendre et de me trouver un peu seul. Elle lui dit, malheureusement vous m'avez trouvé. Il lui dit, vous ce n'est pas pareil, vous êtes hors du temps, de la foule, vous êtes une apparition. Elle sourit et lui dit, vous cherchez à me faire la cour? Non, pas vraiment. Vous êtes tellement...
Si peu femme.
Non, bien au contraire, on vous respecte.
Merci.
C'est sincère, elle lui dit. Si vous saviez comme la vie m'a si peu respectée.
Cela m'étonne. Elle sourit tristement et lui dit.
Même mon fils ne me respecte pas.
Vous avez un fils?
Oui. Vous me donnez quel âge?
30 ans, je ne sais pas, si je peux me le permettre.
Elle lui dit, merci, la nuit fait bien les choses, elle masque les âges, à moins que ce soit le devin. En réalité, j'ai beaucoup plus, j'ai un fils de 20 ans, hélas.
Gaïen ne dit rien, elle continue.
Je ne veux pas savoir ce que les enfants sont cruels. Mon fils que j'aime le plus au monde me traite comme un moins que rien.
Gaïen lui dit, c'est l'âge, faut pas prendre au sérieux ses méchancetés.
Elle lui dit,
il fait vraiment des choses terribles, se drogue, me vole, prend mes affaires et les vend, dit des erreurs sur moi. Et en plus, il se prostitue par téléphone. Je sais plus quoi faire. J'ai présenté à un médecin, j'ai fait disputer par son père, mais rien n'y fait.
Monsieur a décidé de se droguer, de vivre comme ça.
Parce que c'est bon pour la création, parce qu'il ne peut créer autrement.
Il écrit des poèmes?
Non, des chansons, de simples chansons. J'ai tout arrêté pour ça. Un jour, il s'est entiché d'un groupe. Il a voulu aussi faire des chansons. Et dire que son père est président directeur général d'une grande entreprise. Monsieur ne fait rien. Il me vole sa sœur aussi, se drogue de plus en plus. Je le vois dépérir chaque jour et je ne peux rien faire.
Mettez-le dans une maison.
Il ne voudra jamais aller dans une maison. Il est majeur. Quel est l'imbécile qui a donné la majorité à 18 ans. Je ne peux que le voir dépérir.
Galien lui dit, mais il doit bien y avoir une solution.
Allez voir un médecin. Si vous voulez, je peux vous donner l'adresse d'un très bon. Je vous remercie, monsieur. Il ne voudra sûrement jamais aller le voir. Non, il n'y a rien à faire. Il me tue à petit feu en se tuant. Galien lui demande, mais pourquoi se drogue-t-il? Je vous l'ai dit, pour pouvoir plus facilement créer. Galien lui demande, il n'a jamais eu de petite amie? Si, il y en avait une, mais elle l'a chassée. Alors il s'est déprimé et fait de la dépression. Galien lui dit, voilà, il continue à faire de la dépression et c'est sa façon de se suicider. Son comportement est suicidaire pour oublier ce qui est. La drogue lui donne l'illusion d'être plus fort. Votre fils se drogue parce qu'il est encore dépressif et que ne se supporte pas. La drogue l'aide à vivre cette vie qu'il n'aime pas.
Elle lui demande, alors, que faire?
Galien y réfléchit et lui dit, il vit dans un monde clos. Il voit toujours les mêmes personnes. Le choc ne peut venir que de l'extérieur. Si je peux me permettre, je pourrais essayer de donner ce choc à votre fils pour le réveiller et le sortir de ce monde clos.
Écoutez, monsieur, je veux bien. Je suis prête à n'importe quoi. Que faut-il faire?
Il lui dit, je m'appelle Galien Diaz.
Moi, madame de Flory, Antoinette de Flory et mon fils Guillaume.
Eh bien, madame, le plus simple, c'est que vous m'invitiez chez vous alors que votre fils est là et que vous me présentiez comme, je sais pas moi. Elle lui dit, tout excité,
comme le fils d'une de mes amies.
Voilà qui est bien. Et quel ami?
Eh bien, je dirais que j'ai connu votre mère lorsque j'étais au pensionnat et que vous êtes de passage à Paris. Elle est venue me dire votre petit bonjour.
Il lui dit, très bien, parfait. Faudra après un moment me laisser seule avec lui.
Elle lui dit, oui, bien sûr.
Puis tout d'un coup, elle lui demande,
mais qui êtes-vous pour vouloir me rendre service?
Ils ont un ange venu du ciel pour vous aider. En réalité, je suis le président du groupe Jeune Tout. Elle sourit et lui dit,
ouh, vous êtes si jeune, vous ressemblez à DiCaprio.
Il lui dit, malheureusement, je ne suis que moi. Mais je vous assure que je suis bien ce que je vous dis. Elle lui dit,
je vous crois, vous avez un visage tellement enfant et pur. Vous êtes sûrement un ange.
Il lui dit, et l'ange peut venir quel jour chez vous?
Elle lui dit, après-demain, 15h.
Elle sort de sa pochette une carte.
Voici mon adresse.
Il la prend. Elle lui dit,
vous allez m'aider, n'est-ce pas?
Oui.
Parce que je peux vous dire en secret, j'étais venu ici pour...
Il lui dit, je comprends. Mais moi, je suis venu, c'est pour que vous ne me fassiez pas. Il ne faut jamais désespérer. Les larmes aux yeux, elle se penche vers lui et lui donne un baiser sur la joue. Puis, elle s'éloigne, il la regarde disparaître dans la nuit.
Puis Galien s'en retourne.
Tout en marchant, une pensée étrange lui vient à l'esprit. Il se demande si son désir de voir le jeune homme n'a pas quelque chose de trouble, s'il ne veut pas profiter de sa faiblesse pour le séduire, en lui démontrant, sans le lui dire, qu'il est riche et attiré par lui. Et comme le jeune doit chercher à avoir de l'argent, il fera lui aussi tout pour le séduire et se laisser séduire. Une proie facile. Et Galien se dit que ce ne serait pas bien vis-à-vis de la pauvre mère.
Malheureusement, cette nuit-là, il a malgré lui des rêves qui l'excitent.
En se levant, il se dit qu'il ne doit plus penser à ça, que c'est dû à son manque.
Madame Elisabeth Fleury habite Faubourg Saint-Germain, dans un petit immeuble cossu du siècle dernier, au quatrième étage. Galien sonne à l'interphone.
Oui, je suis Galien Dapp. J'ai rendez-vous avec Madame de Fleury.
Oui, vous pouvez rentrer.
Il entend le déclic de la porte.
La pousse et entre.
Elle est de marbre, glace, lustre, cristal, l'escalier large avec belle rampe sculptée de marbre, tapis rouge sur les marches. Il regarde les boîtes aux lettres et voit que c'est au deuxième étage. Il ne prend pas l'ascenseur et monte à pied. Entre les étages, il y a une fenêtre avec vitrail et chaque palier à deux portes d'entrée.
La porte s'ouvre. C'est un domestique grand sec. Entrez, monsieur.
Merci.
Il entre. Domestique a fermé la porte. En entrée, en demi-cercle, crème.
Avec plusieurs portes. Le domestique lui dit : Madame, nous vous attendons au salon. Veuillez me suivre.
Je suis le domestique qui ouvre une porte qui donne dans un couloir beige avec plusieurs portes. Il entre et ressort. Monsieur, entrez. Galien entre.
Le salon est une grande pièce Louis XV, couleur crevette. Elle est debout, avec une robe beige jaune toute simple. La mode cette année-là, comme vous avez pu vous en rendre compte, est au simple, aux formes simples, mais cela ne veut pas dire peu coûteux. Oui, le tailleur rouge, c'était plutôt du temps de M. Pontoy. C'était l'époque où on pouvait encore se battre. Elle va vers lui. Il voit qu'elle paraît tout aussi jeune que dans la nuit.
Merci d'être venu, monsieur Dapp, et merci pour votre bouquet de roses jaunes.
Ce n'est rien, madame. Il voit qu'il est dans un vase sur une table basse. Elle lui dit :
Mon fils ne va pas tarder, il est sorti, sûrement pour aller acheter sa chose. Souhaitons qu'il ne vienne pas trop tard, et dans un état, mais enfin, asseyons-nous.
Elle lui montre un coin de salon où il y a des chaises et une table basse. Elle lui fait signe pour lui indiquer la chaise.
Et elle s'assoit en face de lui.
Elle lui demande : Vous désirez du thé ? Il lui dit : Oui, merci. Elle appuie sur la sonnette électrique qui se trouve sur la table basse. Elle lui dit :
J'ai appris ce qui vous étiez. Vous devez avoir un emploi du temps très serré. Je suis confuse de vous avoir entretenu de cette affaire familiale. Mais j'étais tellement déprimée que j'avais besoin de me confier. Voyez-vous, je suis entouré de gens très superficiels, gentils mais insouciants et incapables d'aider une femme comme moi. Alors, je vous en suis très reconnaissante. »
Galien lui dit : « Ce n'est rien, madame. Et pour ce qui est de mon emploi du temps, je passe mon temps à faire des signatures. Ce sont mes hommes d'affaires qui s'occupent de tout. Or, une signature peut bien attendre une heure ou deux. »
Entrez.
C'est la bonne qui vient avec le thé. Elle va déposer le thé sur la table.
Merci, je servirai.
Bien, madame.
Et la bonne sort de la pièce.
Elle lui demande :
lait, sucre ?
Une goutte de lait. Et elle le sert.
Vous avez raison, le thé doit garder son goût et ne doit pas être gâché par un autre. Le citron atténuerait le goût du thé. Et ne parlons pas d'y mettre de la menthe. Là, c'est carrément un sacrilège. Les gens qui font ça n'aiment pas le thé. Vous avez raison, madame.
L'on entend la sonnette.
Elle lui dit : ce doit être lui.
L'on entend des pas dans le couloir.
Une porte qui s'est ouverte. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Madame est dans le salon.
Merci. Je monte dans ma chambre.
Elle dit à Galien :
pourvu qu'il ne s'enferme pas, vous serez venu pour rien.
Ça n'a pas d'importance, madame.
Mais la porte s'est ouverte.
L'on voit apparaître un jeune homme grand, mince, dans les 20 ans, les cheveux courts, blonds, yeux bleus, visage sympathique et les traits très attirants. Il porte un costume de laine marron, clair, avec des pantalons de golf. C'est la mode, c'est qu'il le rend juvénile et un peu tintin.
« Ah, vous n'êtes pas seul ?» Elle lui dit : « Venez, je vais vous présenter Monsieur Diap. »
Le jeune homme s'avance. La mère lui dit :
voici mon fils Guillaume.
Galien se lève. Bonjour, bonjour. Elle dit à son fils :
c'est le fils de mes amis, une vieille amie d'enfance que j'ai rencontrée par hasard. Et comme je ne connaissais pas son fils, je lui ai dit de le faire venir.
Tiens,
assieds-toi un moment.
Guillaume s'assoit de mauvaise grâce.
Sa mère lui demande :
tu veux du thé ?
Non, merci, j'aime pas cette boisson.
Sa mère lui dit : tu veux autre chose ?
Non, merci. D'ailleurs, je ne reste pas, j'ai affaire.
Sa mère lui dit : Monsieur Diap est président du groupe Jeune Tout.
Le fils lui dit : je connais pas ce groupe. Il a déjà joué où ? Et il se met à rire.
Galien aussi.
La mère lui dit :
mais non, mon chéri, c'est un groupe d'hommes d'affaires.
Il lui dit : je m'en doutais.
Galien demande : pourquoi ?
Parce qu'avec un nom pareil, Jeune Tout, et la dégaine que vous avez.
La mère lui dit : sois poli.
Galien dit à Guillaume : qu'est-ce qu'elle a, ma dégaine ?
Rien, le costume et tout.
Mais vous aussi, vous avez un costume. Guillaume lui dit : je suis obligé, je suis à sec. J'ai que ça à me mettre.
Ça vous va très bien.
Vous vous foutez pas de moi.
Bon, je vous laisse.
Sa mère lui dit :
reste un peu. Tu tiendras compagnie à monsieur. J'ai à faire une course urgente.
Il se lève.
Non,
Tu peux bien me rendre ce service.
C'est ton invité, occupe-toi-en.
Ce n'est pas gentil.
Galien se sent gêné. Il se lève et dit, « Je crois que je ferais bien de partir. » La mère lui dit,
« Surtout pas, ce n'en est pas pour longtemps. J'ai des choses à vous dire. »
Guillaume lui dit, « Mais dis-le-lui de suite et laisse-le partir. » La mère lui dit, « Sois poli, Guillaume. Je m'en vais. À tout de suite. »
Elle sort de la pièce en courant presque.
Guillaume soupire. S'assoit avachi et dit, « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en faisant et la grimace, hausse ses épaules. Puis il prend un paquet de cigarettes dans sa poche et un briquet. Allume la cigarette et la met dans sa bouche. Galien, sans vraiment réfléchir, se penche et lui enlève la cigarette de la bouche. Guillaume est surpris. Galien écrase la cigarette dans le cendrier. Guillaume ouvre la bouche pour parler. Il lui met le doigt dessus et lui dit « Tu fumes trop. C'est pas bon pour un chanteur. C'est pas bon pour la voix. » Guillaume lui dit « Et Gainsbourg, tu n'es pas lui. Et lui aurait eu une meilleure voix s'il n'avait pas fumé et aurait vécu plus longtemps. » Guillaume hausse ses épaules. « Ça c'est toi qui le dis. » Galien lui dit « C'est certain. Et puis, pourquoi est-ce que tu fumes ?» Parce que ça me détend, je me sens bien, et c'est plus facile pour composer. Galien lui dit, je vois, tu crois que prendre certaines choses, ça te facilite ta création. Beaucoup d'artistes croyaient, et puis se sont aperçus que c'est faux. Tiens, regarde Verlaine. Pour lui aussi, sans absinthe, pas de création. Pourtant, plusieurs fois dans sa vie, il a été obligé d'arrêter de boire. Et malgré tout, il a continué à écrire. Et même, il écrivait plus et mieux sans alcool. Alors tu vois, Guillaume lui dit, ça c'est toi qui le dis. Compare sa biographie et les dates de ses œuvres et tu verras. Guillaume lui dit, bien et alors, avec moi, ça fait quelque chose. Il soupire. Le regard mauvais, reprend une cigarette. Galien lui dit, la drogue te donne un bien-être, une certaine assurance, tu te sens mieux dans ta peau pendant qu'elle fait l'effet, mais elle ne t'apporte pas le génie de la création. Ça, tu l'as déjà en toi. Un drogué qui n'est pas artiste ne le devient pas.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
On entend des pas dans le couloir.